si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Il y a bonjour là. Ja, wir sind hier was. Manchmal habe ich lange Zeit doch, wenn ich da im Studio anfange zu babbeln mit euch, hüpse ich wie ein Känguru vor Freude. Une petite traduction s'impose. Je disais dans ma langue maternelle, Mutterspruch, assis confortablement devant cette ribambelle de micro, que les ondes radio me transportent jusqu'à chez vous, m'emplit de joie pour toute la journée. Ceci dit, qui est ton invité, Müller? Surprise! Un invité de taille, comme on aime les découvrir chez nous à la radio. Radio Judaïka, d'ailleurs, reste le média chouchou des Alsaciens. Un grand merci à nos fidèles radio-écouteurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écoute et Monsieur le Rabbin en est ravi. Tu vas enfin nous parler de ton invité, André Müller. Non te poucle, tu es bavard comme 10 avocats, disait déjà ta maman Germaine. Ya, ya, tu. Oui, notre invité surprise est un baroudeur, comme le Tintin de Hergé. Il parcourt le monde à travers la jungle, en pirogue sur le fleuve d'Amazonie, jusqu'à l'Antarctique. Avec sa caméra au point, il a réalisé plus de 40 longs métrages sur la vie des animaux, des images tournées autour de la planète bleue, dans la chaleur torride jusqu'au froid glacial. Bonjour Pierre Mann, je suis très heureux de te rencontrer dans notre studio.
Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés.
Bah écoutez, on se rencontrait dans les radios, dans les
dans
télévisions.
Dans les radios,
autrefois.
Dans les bretzels d'or,
dans les bretzels d'or,
etc. Ouais.
Je suis ravi de te voir avec nous là. Pierre, tu connais bien... Tu connais bien la radio parce que tu as fait rêver nos auditeurs, les téléspectateurs et même ceux du cinéma parce que tu as fait beaucoup de choses avec ta caméra au point.
Oh oui, j'ai commencé comme un amateur et puis à un moment donné, j'ai eu le prix de la bourse de la Fondation de la Vocation, ce qui m'a permis de racheter du matériel professionnel.
Mais une surtout, caméra, tu veux dire ?
Une caméra, oui. Du matériel
professionnel.
Et puis surtout, ça m'a donné une espèce de confiance en moi et en mes capacités de réaliser des films. Et à partir de ce moment-là, j'ai sillonné le monde.
Et comment t'as fait ? Parce que c'est pas facile de filmer à l'autre bout du monde avec une caméra, par un froid glacial par exemple, le moteur d'une caméra tourne pas aussi facilement, non ? Avec les batteries,
il faut, prendre toutes les... D'abord, il faut bien préparer ses voyages.
Ses voyages,
on va pas comme ça, comme un touriste, après avoir lu un petit fascicule touristique.
Ouais.
Non, il faut déjà préparer, non seulement quand on... parler des sujets animaliers, comme c'était mon cas, mais aussi dans l'équipement. Il est évident que lorsque je vais au pôle Nord, je m'habille différemment que lorsque je
suis dans la jungle,
en Amazonie, ça c'est sûr, oui.
Et alors, d'où est venue cette passion des animaux ? C'est le film Tarzan et Jita qui t'a donné l'envie de...
Oui, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de télé encore, donc on voyait de temps en temps... des films de Tarzan avec Johnny Weissmuller, etc.
Qui était alsacien d'ailleurs.
Oui. Ah oui, et moi j'étais convaincu que l'Afrique c'était ça, alors que c'était des décors en papier, en papier mâché. Hein. Donc, et c'est que plus tard que j'ai vu les premiers films sur les animaux, c'était Walt Disney. Mais Walt Disney, en dehors de ses dessins animés, était le premier à montrer les animaux dans leur environnement. On a su plus tard que les films de Walt Disney étaient tous plus ou moins truqués.
Oui, c'est sûr.
Ils mettaient en scène. Donc, il y en a bien d'autres. Ensuite, donc il y a eu, en France, il y a eu Belle et Vienne qui ont fait des reportages extraordinaires sur La Griffe et la Dent, le territoire des autres. Et puis, il y a celui qui est le plus connu.
C'est Frédéric Rossif, La vie des animaux.
Alors Frédéric Rossif,
D'ailleurs, on a entendu son générique tout à l'heure, là, pendant qu'on parlait.
Alors Frédéric Rossif, je préfère ne pas en parler, puisque...
oui, je savais que tu n'aimais pas.
Parce que dans le microcosme des protecteurs de la nature, on l'appelle Frédéric le Nocif.
Le Nocif,
c'est génial. Parce que lui aussi, il mettait beaucoup de choses en scène.
Mais ça lui évitait d'attendre, quoi.
C'est ça. Ceci dit, il a eu un succès
C'était les années 60, ça.
Oui, c'est ça.
Le début de la télé, hein.
Absolument.
Alors Pierre, on dit que les bonnes personnes sont celles qui aiment les animaux. C'est vrai ça ?
Oui, les bonnes personnes aiment les animaux. On aimerait aussi que les autres les aiment un peu plus autrement que dans leur assiette. Donc,
oui, c'est vrai.
C'est sûr. Je rebondis là-dessus pour dire que dans mes conférences que sur l'environnement, sur les animaux, le public que je draine, ce sont souvent, et le plus souvent, des gens qui sont convaincus de la nécessité de protéger la nature.
Protéger les animaux.
On aimerait bien que ce soit aussi les autres qui arrivent, ceux qui n'y croient pas.
Tu me parles de conférences, tu fais où tes conférences, Pierre ?
Ben, je fais des conférences à Strasbourg, mais aussi selon les demandes qui me parviennent.
Dans les écoles, par exemple ou...
Les écoles, je les faisais, oui, mais je ne peux plus me permettre de faire des conférences à 15 ou 20 gamins, parce que je suis tellement sollicité, donc je demande que ce soit une école entière.
Ah oui, oui. Avec plein d'enfants.
Oui, c'est ça. Et puis, un peu partout en France, la dernière projection avec mon nouveau film sur les ours, je l'ai présenté à Strasbourg, bien sûr, en avant-première, mais également à Toulouse. Donc, je ne sollicite pas les gens pour montrer mes films et faire mes conférences. Ce sont les gens qui viennent vers moi.
Qui viennent vers toi. D'ailleurs, tu as réalisé plus de 40 longs métrages, documentaires. Tu as un globe-trotteur regardeur. Tu regardes la vie à travers ta caméra à l'autre bout du monde, un peu partout, dans tous les pays d'Afrique, d'Australie.
Non, je n'étais pas en Australie. J'étais un peu
partout. Pas filmé les kangourous ?
Non, c'est encore dans mes projets. Je filme, du pôle Nord jusqu'au pôle Sud.
Wow.
Mais je n'ai pas été en Chine, je n'ai pas été en Australie, je n'ai pas été à Madagascar.
Ouais, mais tu as été quand même un peu partout.
Je suis un peu partout.
Je crois que tu étais plus de 100 fois en Afrique.
Plus de 100 fois en Afrique.
C'est ce que j'ai lu dans ton livre, là. C'est énorme.
Oui.
Depuis... Et alors, comment c'est l'Afrique quand tu vois cette chaleur torride, les baobabs, les gens qui se... Voilà, raconte-moi un peu l'Afrique, fais-nous un peu rêver.
Alors, l'Afrique, ce sont plusieurs Afriques, je dirais. L'Afrique,
le Kenya,
par exemple...
la Mauritanie, l'Éthiopie, le Mali.
Oui, bien, tous ces pays, je les connais, et ils sont tous différents. Et on ne peut pas comparer, par exemple, l'Afrique de Namibie avec son désert à une Afrique comme la Zambie ou le Botswana ou encore d'autres régions du globe où il y a une forêt vierge. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien préparer ces expéditions parce qu'il ne s'agit pas de voyages touristiques.
Oui, c'est ça.
Donc, il faut bien préparer ces expéditions en matériel, mais également en connaissance du sujet que je suis parti pour.
C'est-à-dire, tu as un scénario, tu ne vas pas comme ça, la sauvette.
On ne peut pas faire de scénario, puisqu'on est tributaire du hasard, tout simplement. Mais par contre, si je sais que je vais filmer, par exemple, les loups d'Afrique, les licaons, je me documente.
Des loups d'Afrique ?
Oui.
C'est quoi, c'est les hyènes, les loups d'Afrique ?
Non, les hyènes ne sont pas des canidés. Les hyènes ne sont pas des canidés. Les loups d'Afrique, ce sont les licaons. Donc,
C'est quoi ? C'est des loups un peu colorisés comme ça ?
C'est ça. Ça vient du grec Lycaon pictus. Donc pictus, loup peint.
Ah, des loups peints.
Et donc, on n'a pas la même. On prépare son sujet pour être efficace et crédible, surtout lorsqu'on présente le film.
Et alors, là tu parles des loups d'Afrique, mais tu as aussi filmé des crocodiles, des éléphants, des girafes. C'est majestueux tout ça, une girafe qui court au ralenti comme c'est gracieux quoi.
Oui, on me demande souvent quel est ton animal préféré, c'est difficile à dire, parce que j'ai vraiment une passion et un amour absolu pour toutes les espèces, et même des espèces qu'on connaît mal et dont on a peur. Par exemple, les gens ont peur des serpents.
Ah oui, mais moi aussi.
Les gens ont peur des serpents. Moi aussi, lorsque j'ai souvent rencontré des serpents, bien que ça soit très difficile, ils sont très farouches. J'ai un recul et puis ensuite je me raisonne.
C'est dangereux quand même. Ah, si ça te, si faut ça pas te, faire, il faut... si ça te mordit, bah, tu peux aller dans les étoiles tout de suite. Hein.
Oui, oui, ça dépend lesquelles. Hein. Le pire de tout, c'est le mamba noir. Alors,
c'est un petit serpent, ça?
Non, ou... non, 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 le mamba noir, c'est le serpent le plus venimeux du monde.
Wow.
Donc, si on se fait mordre par celui-là,
on meurt tout de suite.
Il n'y a pas d'antidote, il n'y a rien.
Mais en fait, Pierre, quand tu filmes tous ces animaux à travers ta caméra, il faut une grande patience, il faut être patient, il faut te planquer quelque part, il faut pas bouger. Oui. Tu y es jour et nuit quasiment, non?
Oui, ça dépend. J'ai tourné des films la nuit aussi, ça c'est vrai, mais actuellement c'est fini, je tourne surtout le jour. Ce que je veux dire, c'est que il y a une telle diversité qu'il est difficile de dire je préfère tel animal à tel autre.
Mais il y a un animal qui est plus facile à filmer que d'autres, j'imagine un lion ou alors une gazelle qui court dans tous les...
Oui, c'est facile, mais quand on parle d'affût, je peux dire, là par exemple, je reviens d'Inde, il y a 2 semaines j'étais en Inde pour compléter...
Pour Noël, hein? Enfin pour
oui,
un peu...
Oui, oui, ouais. Oui, et puis pour filmer le tigre.
Alors, le tigre?
Oui, le tigre du Bengale.
Ouais. Donc, mais c'est rare, ça, non?
C'est très rare, c'est très rare.
Et tu l'as vu?
Oui, c'est très farouche. Oui, bien sûr, j'en ai vu. On a sillonné la jungle pendant 3 jours sans voir la queue d'un seul...
En voiture, alors, en 4x4?
En voiture ou alors en affût.
On a
relevé les traces au sol. Évidemment, j'avais un guide local. On relève les traces au sol et puis on suit. Et puis quand on est à proximité, on se planque et puis on prépare son matériel.
Mais là, ton matériel, c'est plus du 16 mm. C'est une caméra vidéo, j'imagine.
Oui.
Avec le son intégré,
J'étais le dernier en Alsace à travailler avec une caméra 16 mm.
Ah,
j'étais
ouais.
vraiment le dernier. Mais depuis, évidemment, j'ai pris le train comme tout le monde.
Comme tout le monde, oui.
Et je filme avec des caméras professionnelles.
Et mais en plus, c'est très sensible. La nuit, j'imagine, tu peux
filmer. La nuit, c'est encore difficile.
C'est encore difficile,
oui. C'est comme... Mais au lever du jour ou au crépuscule, c'est très simple et c'est très intéressant.
C'est comment le crépuscule, le lever du soleil en Afrique?
Ah, c'est
ça.
Extraordinaire, évidemment. Ah. On en rêve, on en rêve.
Moi, j'en ai vu des levées de soleil comme ça en Afrique quand j'ai fait les Paris-Dakar. C'était magnifique, quoi.
Oui.
Et alors, moi, j'ai un souvenir de la nuit dans le désert. J'ai l'impression que j'étais un cueilleur d'étoiles. Parce qu'elles étaient juste au-dessus de ma tête, au-dessus des mains, comme ça.
J'aime bien ton expression, cueilleur d'étoiles.
Ah, je trouve ça beau, je trouve ça... Oui, enfin, voilà, c'est ce que je ressentais, quoi, tu vois.
C'est ce qu'on ressent. Quand je vois chez nous, en plein été, le ciel, ça n'a rien de comparable avec un ciel africain.
Ah non, bien
parce
sûr
que nous sommes totalement...
J'en ai la chair de poule quand on en parle, tellement c'était beau, tu vois.
Mais on est tellement pollués chez nous, on ne se rend même pas compte de ce que c'est un firmament.
Ouais, il faut que tu... C'est vrai, effectivement. Bah, il faut aller en haut d'une montagne, comme le Champ du Feu, il y a des endroits encore...
Et encore,
c'est pas comme ça. C'est pas cette manière-là. Alors, tu me parles à l'instant de ces animaux, les éléphants, les rhinocéros, les grandes bêtes. Est-ce que c'est pas dangereux, ça, de les filmer? Ils t'ont jamais chargé? Ils t'ont jamais embêté?
Si, bien sûr, j'ai connu plusieurs... Bon, on m'a taxé un peu d'inconscient. J'ai subi plusieurs charges, si.
Raconte-moi, c'est comment quand un éléphant te charge?
Alors, on dit généralement, l'éléphant charge, quand l'éléphant charge, 9 fois sur 10, c'est du bluff.
C'est-à-dire, pas vrai.
Il s'arrête avant, mais on ne sait jamais quand c'est la 10e fois, donc il faut vraiment se méfier. Je connais, comme j'étais également guide en Afrique, j'ai des gens qui m'ont dit « j'ai été chargé par un éléphant ». Alors, ils n'ont pas été chargés par un éléphant.
Parce qu'ils ne seraient plus là, quoi.
Ils ne seraient plus là pour le raconter. Moi, personnellement, j'ai connu plusieurs charges, d'intimidation. Je m'en rappelle d'une seule où j'ai quitté mon véhicule parce que le matin, j'avais vu un léopard et je voulais retrouver les traces. Donc, je suis descendu de voiture pour suivre les traces. Et puis, à 40 mètres de mon véhicule, j'entends un bruit derrière un baobab. Et c'était un éléphant qui, aussitôt, me charge avec un barrissement comme un tonnerre. Et j'étais pétrifié. Et puis, en fait, il s'est arrêté à 1 mètre de moi.
Mais année, quoi. Waouh.
Oui, et puis il est parti. Et puis, je n'ai pas compris pourquoi il a chargé, puisque parce que je connaissais bien cet éléphant, je l'avais vu.
Ah, tu l'avais déjà rencontré un jour?
Oui, je l'avais. Ah ouais. Oui, enfin, j'ai suivi ce troupeau pendant longtemps.
Ouais.
Donc, c'était un mâle qui s'était rapproché des femelles parce qu'il était, en fait, il était en must.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi?
En must, il était en rut.
Ah, en rut.
Et à ce moment-là, les éléphants, les mâles, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Donc, ils chargent
comme
réellement.
Comme les humains, un peu, de temps en temps.
Oui, c'est ça, quand ils sont en rut. Oui, c'est ça. Et donc, cet éléphant m'a chargé. J'ose imaginer qu'il m'a reconnu et qu'il a dit celui-là.
Ah, tu penses?
Ouais. Je ne sais pas.
Il t'a sniffé,
dis ça comme ça, mais j'ose imaginer qu'il... Et puis, je lui parlais. Je lui parlais quand il était devant moi. Je disais n'importe quoi, d'ailleurs. Et puis, il a tourné les talons, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis il est parti.
Il a continué son chemin.
Et moi, j'ai regagné ma voiture. Je lui ai dit, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Et puis je l'ai suivi, et puis j'ai vu qu'il avait cette trace caractéristique d'une espèce de substance qui coule sur le front.
Des yeux qui, non?
Non, c'est entre les yeux et le sommet de la tête.
Ah ouais?
Oui, à la tempe.
La tempe.
Et c'est un signe comme quoi il est en must.
Ah d'accord, ouais. Et toi, tu te sentais comment dans la voiture? Dans la voiture,
j'étais tranquille. J'ai connu d'autres charges, comme notamment deux charges de rhinocéros, où j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai également eu une charge mémorable d'un crocodile. Donc,
un crocodile?
Oui. J'étais avec une équipe de chercheurs qui capturaient les crocodiles.
À quel endroit? C'était en Mauritanie, ça?
Non, c'était en Afrique du Sud, près de l'océan Indien.
Ouais.
Et donc, ils étudiaient les crocodiles pour savoir comment ils se nourrissent, comment ils se déplacent. Et pour cela, il a fallu les attirer dans une espèce de petit canal avec une viande pourrie. Et le lendemain, et moi, j'étais dans l'eau.
Dis donc, t'es courageux, hein. Waouh.
Oui, peut-être
un peu. T'aurais pu être cul-de-jatte, là.
Oui, c'est ça. Et puis, la directrice de l'équipe me dit, Pierre, sors tout de suite de cette voiture, les crocodiles peuvent t'attaquer.
Bien sûr.
Et puis, le soir, elle avait pris la précaution de mettre une espèce de panneau avec du fil de fer entre moi et l'eau.
D'accord.
Et j'étais en train de vérifier ma caméra, j'étais assis sur mon petit siège, quand brusquement, du fond de l'eau, a jailli un crocodile, un immense crocodile, gueule ouverte, qui s'est arrêté devant ce panneau.
Waouh.
Donc j'étais à 40-50 cm de sa gueule, et je suis tombé à la renverse.
Ah ouais, ça j'imagine.
Et puis au bout d'un moment, le crocodile est reparti dans son... Mais j'étais à ce moment-là très reconnaissant à Christiana, c'était la directrice de ce programme
d'accord,
de recherche,
d'accord.
De m'avoir un peu engueulé.
Ouais, écoute, j'ai aussi des anecdotes comme ça avec des crocodiles, mais bon, voilà, on est là avec toi. On va écouter un petit peu une petite musiquette qui va te plaire pour nous reposer un petit peu les oreilles. C'est un chant africain de Ismaëlo.
Oui, volontiers.
Hawe he chico dano sisero momu monila degam julinga momu monila.
C'est joli, hein? Ça nous rappelle l'Afrique, ça, tout
là-dedans. J'adore.
Moi aussi, j'aime beaucoup Ismaëlo, c'est beau. Alors, dis-moi, quand on revient d'un voyage d'Afrique, comme tu as été une centaine de fois, quand tu reviens dans ton Alsace, on n'est plus le même, on est beaucoup plus humble, on a vécu des choses extraordinaires à l'autre bout du monde, en Afrique.
Oui.
Comment tu te sens quand tu reviens?
Mais je suis toujours heureux de revenir chez moi. En Alsace, c'est quand même ici que je suis né et que... Et on me dira tout ce qu'on veut, on est dans une belle province. Ceci étant dit, mes expériences africaines m'ont beaucoup appris et ont changé ma vie et celle de ma femme d'ailleurs. Et je pense notamment à un film que j'ai tourné avec les petits hommes du désert, les Bushmen, dans le désert.
Ce sont des pygmées, tu veux dire ?
Non, ce n'est pas des pygmées, ils ont 1m50. Non, ça s'appelle des Bushmen. Donc.
Ouais, mais les Bushmen, c'est les gens les plus rapides du monde. C'est non, des gens qui non, les Bushmen, quand ils viennent ici faire des courses,
non,
des marathons,
non, pas du tout.
C'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose.
Je pensais que c'était la même chose.
Les Bushmen étaient les premiers habitants de l'Afrique australe avant qu'arrivent les Bantous, chassés à cause de l'esclavagisme et à cause des luttes tribales. Donc, les Bushmen sont plutôt d'origine asiatique.
D'accord. Okay. Mais ce sont des gardiens de troupeaux, tu veux dire, les
non,
Bushmen ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Ce sont des chasseurs-cueilleurs.
C'est beau, ça.
C'est des chasseurs-cueilleurs, donc, que j'ai suivis. Et j'ai travaillé avec eux pendant 4 années, pas d'affilée.
Wow.
Donc, je suis retourné. Et c'est un peuple extraordinaire. Et ça a changé ma vie, ça a changé la vie de mon épouse aussi. Donc, parce que toute leur philosophie est basée sur le don et sur le partage. Ça, c'est assez extraordinaire. Donc ça, c'était une de mes expériences les plus belles que j'ai pu vivre dans ma vie. Je voulais juste ajouter, j'ai fait un film donc, là-dessus, qui a obtenu d'ailleurs 5 distinctions dans le monde. Et je me suis fait un devoir de leur présenter le film.
Donc,
je suis retourné en Afrique, dans le désert. Je suis parti avec un petit groupe électrogène, un petit projecteur. Et c'est la première fois de leur vie. J'avais 280 bushmen.
Wow.
J'avais tendu un drap entre 2 arbres. Donc, c'est la première fois que
c'est comme bushmen. Tintin, quoi. Comme voilà. Tintin au Congo.
Voilà. C'est la première fois qu'ils ont vu une image mouvante.
Wow. Et
chose bizarre, ils ne se reconnaissaient pas.
Absolument. Ah ouais.
Ils reconnaissaient leurs voisins, mais eux-mêmes. Ils n'ont pas de miroir.
Ah oui, ok.
Et je me suis dit, je vais les filmer, voir leur réaction. Et puis finalement, j'ai posé ma caméra et puis je me suis mis à côté des deux et puis on a regardé le film. Ils voulaient voir et revoir ce film pendant toute une nuit.
Ah ouais, ok.
Et wow. Je me rappelle, un vieil homme à côté de moi me disait, en regardant le film, c'est toute ma vie qui se déroule sous mes yeux.
Oh, c'est génial. C'est extraordinaire, ça. Ouais.
Ouais.
Là, on parle de choses très, très sympathiques, mais qui est dans la chaleur en Afrique. Mais parle-moi un petit peu de la banquise. Des ours blancs, parce que tu as aussi filmé ça dans le froid glacial.
Oui.
Donne-nous un peu de fraîcheur, là. Dis-nous un petit peu.
Eh bien, alors, un peu de fraîcheur, ça va être de moins en moins frais, puisque à cause du réchauffement climatique, on va avoir. La dernière fois que j'étais en Antarctique, donc il y a 3-4 ans, je devais avoir du moins 15 en arrivant en Antarctique. J'avais du plus 15.
C'est pas possible.
Plus 15 degrés. C'est dans les pôles en Arctique et en Antarctique que se manifeste le plus visiblement le réchauffement, le dérèglement climatique. Donc, et ça c'est un vrai drame. Ceci étant dit, pour parler des ours, j'en parle dans mon dernier film qui sera diffusé par Arte l'an prochain. Les ours polaires, c'est l'un des animaux qui, le premier, va disparaître à cause du réchauffement. Pourquoi ? Parce qu'il ne se nourrit que de phoques.
Ouais,
et les phoques, ils mettent bas sur la banquise.
Ah ouais.
Et lorsque la banquise disparaît...
Il n'y a plus de nourriture.
Il n'y a plus de nourriture.
Ils vont peut-être manger les hommes comme toi quand tu reviens.
Ah ben, les hommes, ils en ont mangé. Mais donc, l'ours polaire, c'est le seul vraiment...
qui est dangereux pour l'homme.
Qui est extrêmement dangereux. Tous les ours peuvent être dangereux. Mais il faut savoir comment s'y prendre pour éviter les accidents.
Parce que tu as aussi filmé les ours en Slovénie ou partout ailleurs, quoi.
Oui, j'ai filmé. Alors, la plus belle expérience... Une des plus belles expériences, c'était au Kamchatka, donc dans l'extrême Sibérie russe, où j'ai filmé les grizzlies. Donc tout ça, c'est dans mon film. Et ces grizzlies aussi m'ont mal aujourd'hui, puisqu'avec l'ouverture du rideau de fer, il y a eu beaucoup de chasseurs de trophées.
Ah ouais.
Donc, et puis on flingue les ours.
C'est quand même incroyable qu'on ait le droit de faire ça.
Oui.
C'est pas répertorié, on a le droit de tuer autant d'ours qu'on veut.
Oui.
Parce que ça ramène de l'argent, la chasse,
C'est le fric.
C'est l'argent.
Même l'ours polaire, qui pourtant est voué à disparaître, aujourd'hui le gouvernement canadien accorde encore des
carnets pour chasser l'ours blanc.
Moyennant 10 000, 15 000 euros
oui. Ou mais plus. Les gens qui ont de l'argent, ils s'en foutent. Quoi.
Oui, ça c'est...
Alors, je sais aussi que tu as tout ce qu'on raconte, tu l'as mis dans un beau livre, là, des éditions de La Nuée Bleue, chez Mathilde, Leçon de l'humanité. Alors ça, c'est un livre qui vient de sortir, là.
C'est ma biographie que je viens d'achever, et le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies.
Librairies en Alsace et partout ailleurs.
Comme on dit, oui.
Oui, c'est vrai. Alors, tu racontes ta vie là-dedans, tu racontes tout ce que tu as vécu, de ton enfance jusqu'à aujourd'hui.
Oui, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Mon enfance a été extrêmement triste, puisque ça date de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, je sais, je l'ai lu dans ton livre.
Donc il faut lire le livre pour
connaître. Après, il y a des rencontres beaucoup plus heureuses aussi. Je sais que tu as rencontré un jour Coppens.
Oui, mais non seulement je l'ai rencontré, c'était un excellent ami, puisqu'il était... Il était lauréat de la Fondation de la Vocation, comme moi je le fus. Et Yves Coppens, il a fait, je pense que sa dernière, avant de décéder, son dernier témoignage dans le livre de ma femme, Sabine. Oui.
Parce que ton épouse part avec toi en reportage également, vous êtes toujours ensemble.
Oui, nous sommes toujours... Elle est photographe et moi, je tourne des
C'est l'amour qui vous a réunis.
L'amour et la passion.
Et la passion de la photo, tout ça, c'est bien. Quel joli couple, c'est sympa ça.
Pour que ça dure.
De travailler, pas de raison, écoute, travailler main dans la main. Alors, tu m'as parlé à l'instant de Yves Coppens, mais tu as aussi vu Hubert Reeve, tu as vu Costa Gavras, toutes ces rencontres, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté?
Costa Gavras, la première fois que je l'ai rencontré, c'était ici, dans ce studio.
C'est pas vrai, à Radio Judaïca.
Oui, lorsqu'il a fait la promotion de son film Amen.
Ouais.
Et moi, j'enregistrais pour Judaïca, Radio Judaïca, des émissions sur les animaux. Donc, et un jour, on m'a dit, aujourd'hui, il faut se dépêcher parce qu'il y a Costa Gavras qui arrive. Wow. C'est comme ça que je l'ai rencontré et on a gardé le contact. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai fait ce
livre-là pour raconter ta vie. Ouais.
Il faut le lire.
Leçon d'humanité.
Oui. Mais j'ai aussi connu Pierre.
Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Costa Gavras? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu l'as rencontré?
Quand j'ai rencontré.
L'envie d'y aller, quoi.
Oui, quand j'ai rencontré, il m'a dit, qu'est-ce que vous faites, vous, là? Alors, j'ai dit que je fais des films. Il dit, ça m'intéresse. Et il me dit, quand vous venez à Paris, téléphonez-moi, on mange ensemble. Et j'ai jamais osé téléphoner.
Et pourquoi?
Parce que je...
T'es timide? Non,
oui,
arrête.
Arrête. Pourquoi? Une certaine timidité. Et puis, par contre, je lui ai envoyé mes films systématiquement. Et chaque fois, à chaque envoi, il me répondait avec des termes très élogieux. Du film qu'il avait visionné. Donc, et son dernier bouquin, parce que je lui ai dit que je n'ai pas osé lui téléphoner, et dans le dernier livre qu'il a fait, qui s'appelle « Va où il est impossible d'aller », je le recommande d'ailleurs à tous les lecteurs, il m'a mis dans sa dédicace un grand « oser ».
Oh, donc, c'est génial. Donc, c'est vrai que dans la vie, il faut avoir de l'audace. Moi, tu vois, avec le journalisme, quand une porte était fermée, je rentrais par la cheminée, quoi. Moi, ça, c'était mon truc à moi, Mais moi, Costa Gavras, j'aurais eu un plaisir de le rencontrer.
Ouais,
ses films, c'était
extraordinaire. Mais moi, j'avais pas eu ce culot, voilà. Donc,
Tu l'avais devant les animaux. Devant un rhinocéros sur un éléphant.
Écoute, j'ai plus de problèmes avec les humains qu'avec les animaux, J'ai plus de problèmes avec les humains. On m'a pris pour un espion en Afrique du Sud. J'ai vécu pas mal de choses.
Bah écoute, en tout cas, merci d'être venu jusqu'à chez nous, la radio Judaïca.
Avec grand plaisir.
Je vous conseille de lire le livre de Pierre Mann, Leçon d'humanité, aux éditions de La Nuée Bleue. Merci Pierre, continue de nous faire rêver avec tes beaux films.
Absolument.
Voilà. Générique de fin, merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Salut.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà.